l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Kairouga.
Fermez les yeux et imaginez un lieu où vous puissiez apprendre à réduire votre consommation énergétique, à confectionner vos produits ménagers, à cuisiner ou jardiner sainement. Imaginez un lieu où l'on vous accompagne dans la construction ou la rénovation de votre maison pour la rendre plus économe en énergie avec des matériaux sains et biosourcés. Un lieu où l'on sensibilise et forme les professionnels, les collectivités et les enfants bien sûr. Ouvrez les yeux maintenant et non, vous ne rêvez pas, ce genre de lieu existe. Il s'agit d'un éco-centre. Il en existe un peu partout sur le territoire et il ne tient peut-être qu'à vous d'en créer un de plus. Alors, écoutez bien et inspirez-vous. Voilà une clé pour changer le monde en commençant par le territoire qui vous entoure. Bonne écoute à vous.
Bienvenue à l'éco-centre Pierre-Etter, à Riscle dans le Gers. Ouais. Véronique Tirbois, je suis chargée de communication et vie associative donc à l'association depuis l'année dernière.
Ok. Alors c'est quoi un éco-centre ? Donc là on se retrouve dans une grande pièce avec un accueil de la documentation.
C'est ça exactement, donc avec de la documentation, des publications que nous avons éditées, notamment sur la rénovation, l'assainissement et la construction du bâtiment de l'éco-centre. Et aussi des exemples en fait, de matériaux écologiques, une petite éco-boutique et une librairie spécialisée, et même une exposition de toilettes sèches.
Voilà, parce qu'ici, en fait, on parle beaucoup d'habitat, c'est ça ? C'est comment ? C'est donner les clés aux gens qui vous entourent et qui veulent assurer une transition dans leur vie quotidienne, c'est ça ?
Exactement. C'est finalement de donner des pistes sur tous les gestes qu'on peut mettre en place au quotidien, sur les alternatives écologiques, et ça passe notamment par l'habitat, l'assainissement et aussi finalement la consommation de tous les jours, donc dans nos actes d'achat en fait, ou même dans le jardin.
Alors on va regarder sur les actes de tous les jours, on va dire tout le monde ne veut pas construire une maison tout de suite. Au quotidien déjà, en quoi vous aidez les gens des alentours à changer leur façon de consommer, je suppose ?
Alors, ça peut être des gestes d'économie d'énergie, par exemple.
On va voir là-bas, on voit justement des espèces de paraboles.
Alors, ce sont des fours solaires. Après, ce n'est pas forcément des choses qu'on préconise au quotidien, parce qu'il faut quand même une luminosité pour faire cuire les aliments ou les faire réchauffer. Mais ça peut être des gestes plus faciles à mettre en place chez soi. Des interrupteurs aux multiprises, comme ça on coupe tout d'un coup au lieu de laisser l'éveil des appareils. Ouais. Ça peut être installer des rideaux au niveau des volets, enfin au niveau des fenêtres, pardon. On a des petits gestes faciles à mettre en place chez soi.
Pour faire des économies d'énergie.
L'objectif, voilà, c'est de faire des économies d'énergie. On suit pas mal de personnes qui sont en situation de précarité énergétique pour justement voilà, les soutenir. Et finalement, ça va dans le sens économique et écologique. Donc voilà, nous, on apporte notre aide sur ça.
Après, au quotidien, bon, y a tous les produits. Vous suivez donc des gens qui sont en précarité, donc vous avez un objectif social ?
Tout à fait. En fait, on est centre social. Donc depuis novembre 2016, donc c'est la CAF qui nous a donné ce statut-là pour favoriser finalement nos actions et développer même d'autres actions en faveur toujours les économies d'énergie, la lutte contre la précarité énergétique, le mieux-être au quotidien finalement de ces personnes-là, améliorer leur confort chez elles, parce que voilà, c'est aussi important de se sentir bien chez soi. Ça aide ces personnes à mieux recevoir finalement leur famille et moins se sentir exclus de la population.
Alors vous les amenez aussi à faire des économies par rapport aux achats, peut-être de produits ménagers, de choses comme ça.
Alors du coup, pour les produits ménagers, effectivement, on a réalisé des ateliers de fabrication de produits ménagers avec quelques produits finalement très simples. Mmh. On arrive à remplacer tous les produits qui ne sont pas écologiques dans son placard et tout aussi efficace. Voilà, c'est quand même ça l'objectif, c'est que ça reste quand même efficace.
Allez, on donne quelques recettes quand même.
Alors, par exemple, pour le produit à vitre, c'est juste de l'eau chaude avec deux bouchons de vinaigre blanc, du papier journal. Voilà, c'est le truc le plus simple au monde et c'est super efficace.
La lessive peut-être aussi ?
Alors la lessive, il y a plein de recettes différentes. Il y en a à partir de cendres, il y en a à partir du lierre, parce que le lierre c'est fort en, en saponifiant.
On peut acheter des paillettes de savon de Marseille, on mélange juste avec de l'eau et ça fait du savon liquide.
À peu près.
De la lessive liquide.
Ouais, il y a quelques petits trucs à rajouter généralement en plus, mais c'est la base. Voilà, de tête. Après, il y a plein d'astuces faciles. Hein. Le liquide vaisselle, on peut très bien le remplacer par juste un savon de Marseille. On mouille l'éponge finalement, on la passe sur le savon. Et ça remplace le liquide vaisselle.
Le bâtiment lui-même, il est conçu comment ?
Alors, c'est un système de paille porteuse, en fait. Donc, à part la façade sud qui est en poteau-poutre pour soutenir tout ce vitrage, finalement.
Toute la façade sud est vitrée pour les apports du soleil.
Exactement. Caché en été, pour pas qu'il fasse trop chaud non plus, par une petite treille végétale et une avancée de toit. En fait, c'est ces grosses bottes de paille, finalement, qui soutiennent la charpente. Voilà, c'est ce système-là qui est finalement performant, qui nous permet cette performance, parce qu'il va faire, du coup, isolant, direct.
Ah donc, c'est une maison en paille, ici.
C'est une maison en paille, oui.
Ça se voit pas, ça fait...
Non, ça se voit pas. En fait, c'est caché par les enduits, finalement, de terre, à l'intérieur. Donc on voit rien à l'intérieur des murs.
Et ça sent bon, ça sent pas comme quand il y a du placo ou des choses un peu chimiques. Là ici ça sent bon.
Ben ça sent des produits naturels en fait, tout simplement, entre finalement la terre, le bois, la paille. C'est essentiellement les matériaux qu'on retrouve ici.
Pour l'habitat, qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire, on peut prendre rendez-vous chez vous quand on veut construire ou quand on veut rénover ?
Alors en fait, on a une démarche progressive. Il y a le niveau information, où là, ça va être par exemple les visites guidées de l'éco-centre, des renseignements par téléphone pour les gens qui appellent et qui veulent juste des petits conseils sans forcément se faire accompagner par nous. Il va y avoir le niveau animation-formation, où là, ça peut être des petits ateliers, par exemple, sur la peinture, les enduits, la construction en terre. Et le niveau accompagnement, où là, du coup, c'est vraiment des personnes qui ont un projet, soit de construction, soit de rénovation, soit d'assainissement non collectif. Où là, il va y avoir un premier rendez-vous à l'éco-centre, qui est gratuit, où là, les gens, du coup, nous exposent leur projet. Nous, on va donner des conseils, du coup, des premières pistes, finalement, d'amélioration de leur bâti, si c'est de la rénovation, ou des conseils pour, justement, construire dans l'idée d'être le plus écologique et le plus économique possible, dans le sens énergétique.
Alors, les conseils sont... On n'est pas dans l'écologie comme souvent on en entend parler, c'est-à-dire une isolation avec du placo. On est vraiment dans l'utilisation de produits biosourcés, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment des choses qui sont vraiment bonnes pour la planète, quoi. C'est au-delà de l'économie d'énergie, c'est vraiment quelque chose de très pointu.
En fait, c'est comme ce qu'on a appliqué à l'éco-centre. C'est des matériaux sains, écologiques et le plus local possible.
Et ça coûte moins cher en général.
Alors ici, ben voilà, la preuve par l'exemple, donc l'éco-centre, en TTC du mètre carré, on arrive à 1201 euros. C'est beaucoup moins cher que des bâtiments conventionnels, surtout pour un bâtiment recevant du public. Donc voilà, on y arrive à finalement être à la fois performant et pas cher.
Et ça a été fait par des artisans. Hein.
Tout à fait. Il n'y a pas d'autoconstruction sur le site.
Donc ouais, je sais pas, je connais pas les prix de 1200.
C'est plutôt entre 1500 et 1800.
Habituellement. Ouais. Donc ici, vous l'avez fait en paille, mais il n'y a pas que... On peut aller voir peut-être dans le hall. On voit les différentes formes. Donc ici, on est dans le hall et donc on voit les différentes façons de construire une maison un peu différemment qu'avec du parpaing habituel.
Alors en fait, là, c'est que des projets qu'on a accompagnés. Donc c'est que des exemples de rénovation où voilà, c'est des projets qu'on peut dire ça fonctionne. On les a testés, ça marche.
Alors on a quoi ? Montre-nous.
Alors là, ça va être du chanvre.
Donc à la base, il y avait un mur en briquette.
C'est ça.
Comme beaucoup de maisons très très mal isolées du 20e siècle. Hein.
Oui, c'est exactement ça. C'est la maison typique finalement, où on va avoir une isolation par l'extérieur avec du chanvre, sachant que voilà, on essaye de trouver l'isolant le plus adapté en fonction de la maison et du budget. Parce que voilà, chaque...
Donc là, on a mis quoi ?
Là, il y a 18 cm de bloc de chanvre.
Donc il y a cette idée de doublage de mur, puisqu'en fait, la meilleure isolation pour une maison en général, c'est plutôt par l'extérieur qu'il faut la faire.
Alors, l'isolation, la première, la priorité, c'est le toit. Après, c'est les murs, après, c'est le sol.
D'accord.
En fait, l'isolation par l'extérieur, ça va permettre... Donc, ça sera mieux isolé et ça évite de perdre de l'espace à l'intérieur. C'est souvent dans les critères pour les gens.
Ok, donc on en a d'autres ici, on a mis du...
Là, c'est de la fibre de bois, donc en panneau. Okay. Là, elle fait 10 cm d'épaisseur.
et un enduit par-dessus, enfin une espèce de petit grillage pour accrocher la chaux.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Bon, plus classique, laine de bois plus chanvre.
Ouais, avec un bardage pour protéger sur l'extérieur. Donc voilà, c'est chaque maison finalement, on a adopté une technique différente pour montrer ici.
On a du béton cellulaire, du matériau isolant, toujours avec du béton de chanvre. Et évidemment la paille, c'est-à-dire ce que vous avez fait. Bon, il y en a d'autres avec les briques monomures, avec des choses comme ça. On a aussi donc l'isolation du toit.
Ouais.
Et là aussi, alors là c'est par en dessous, c'est plus par en dessus.
Alors du coup, pour isoler le toit, il y a deux techniques, soit en rampant, donc qui vont suivre finalement la pente du toit, soit en comble perdu, où là du coup on va être à plat sur le dernier étage, généralement c'est le grenier. Donc voilà, ça fonctionne suivant si le dernier étage est utilisé ou pas pour des pièces de vie. Donc après voilà, les isolants qu'on préconise, c'est notamment la ouate de cellulose, la laine de mouton, la paille même, pourquoi pas.
Alors la laine de mouton doit être un peu plus chère et la ouate de cellulose c'est vraiment le meilleur compromis qualité-prix.
Ouais, exactement. C'est équivalent à peu près à des matériaux conventionnels pour l'isolation.
Ok, bon bah super. Bon, on va faire une petite pause musicale avant d'aller voir tes collègues. On va faire une petite pause musicale, qu'est-ce que t'as envie d'écouter ?
L'année dernière avec les collègues, on a tous été à Welcome in Tigany, c'est donc un festival qui se passe dans le Gers. Donc quelque chose dans cette ambiance type du Goran Bregovic.
Ok, super, ouais. Avec grand plaisir. Retour au sein de l'éco-centre Pierre et Terre. Dans cette seconde partie d'émission, vous allez rencontrer Anaïs, architecte, qui va vous donner quelques clés pour rénover sainement votre maison. Mais avant tout, vous allez entendre Christophe Mérotteau, directeur de l'éco-centre, qui va vous parler d'assainissement écologique et économique. Alors, bonne écoute à tous. Une spécificité de l'éco-centre donc Pierre et Terre à Riscle, ce qui le fait un peu se démarquer des autres éco-centres, c'est son travail sur l'assainissement. Et ça, je crois que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, toi.
Cette année, nous avons travaillé sur une étude de suivi in situ sur le traitement des eaux ménagères.
Donc, les eaux ménagères, il n'y a pas les toilettes dedans, c'est ça ?
Voilà. C'est-à-dire qu'on a un cadre réglementaire qui encadre le traitement de l'ensemble des eaux qui sortent d'une maison. On a, depuis 2012, ça a été revu en 2012, mais depuis 2009, on a un cadre réglementaire, c'est l'article 17, qui encadre l'installation et donc qui favorise l'installation des toilettes sèches. Mais on a un vide sur la partie traitement des eaux ménagères. Donc l'eau, elle arrive propre dans la maison et ressort sale. Donc l'objectif, c'est de diminuer la charge de pollution à l'intérieur de la maison de manière à ce que le système d'assainissement, de par cette charge amoindrie, soit simplifié.
Oui, la première base, c'est ça. C'est les produits qu'on va mettre dans l'eau avant qu'elle sorte.
Tout à fait, les produits qu'on va mettre dans l'eau et aussi le niveau de charge de pollution. Donc à travers cette étude qu'on a fait de suivi in situ sur les eaux ménagères, donc, qui est à savoir quand même une commande du ministère de l'écologie, qui est en charge de cette thématique en partenariat avec le ministère de la Santé. Donc on s'est attaché déjà à ce qu'on appelle caractériser, c'est-à-dire à dimensionner la charge de pollution des eaux ménagères. Donc ça nous a permis de prouver que dès qu'on sort tout simplement les eaux vannes, c'est-à-dire les eaux des toilettes, de notre système d'assainissement, on amoindrit, on diminue entre 25 et 45% de la charge totale de pollution qui sort de notre maison. Donc voilà, donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément...
Donc vous accompagnez évidemment à la mise en place de toilettes sèches dans les habitats, je suppose.
Oui, ça bien sûr. Et ça, de ce côté-là, on n'a pas changé. On continue à accompagner avec aujourd'hui des toilettes sèches qui sont très modernes, très contemporaines, où il n'y a plus d'ajout de sucre, qui sont directement reliés au composteur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de manipulation à faire pour aller sur le tas de compost. Ça se fait automatiquement, ça se fait tout seul parce que c'est directement relié. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une classification nationale sur les toilettes sèches qui présente un peu ces différents axes. Il suffit d'aller sur notre site internet pour aller voir comment c'est organisé. Okay. Voilà. Et le deuxième objectif de cette étude, c'était derrière donc, de dimensionner des systèmes de traitement pour les eaux ménagères. Donc on est parti sur des systèmes très simplifiés. Donc voilà, donc ça permet d'arriver à montrer que derrière, on peut faire des systèmes d'assainissement. On sait que le coût d'un système d'assainissement conventionnel aujourd'hui, en moyenne, il tourne entre 8 et 10 000 euros en zone rurale, un peu plus quand on se rapproche des villes. Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire des systèmes d'assainissement écologique, très peu cher, qu'avec de la ressource renouvelable. Donc on arrive à diminuer le coût de manière exponentielle, puisqu'on arrive à faire des systèmes d'assainissement qui tournent aux alentours de 1500 euros.
Votre truc, il est tout simple, je l'ai vu dans la maison écologique, dans le dernier numéro de la maison écologique, c'est simplement une tranchée. C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises, une tranchée avec à l'intérieur des copeaux de...
C'est des copeaux de bois, c'est du bois broyé. Donc c'est le bois broyé qu'on a dans son jardin. Bon, effectivement, il peut venir d'un peu plus loin, il n'y a pas de problème. Mais si on n'a pas de broyeur chez soi, on peut faire venir du bois broyé du voisin, des élagages communaux ou de la déchetterie qui peut avoir du bois broyé. Mais voilà, on reste bien sûr sur des
essences. Et on plante dessus ?
Alors non, on récupère l'ensemble des eaux qui sortent de la maison. On va les envoyer dans des tranchées qui vont faire 1 mètre carré équivalent à l'habitant. Les tranchées 1 mètre carré, ça veut dire que c'est des tranchées qui vont faire 40 cm de large, qui vont faire 2,5 mètres de long. Et on les infiltre en surface. Et pour qu'elles s'infiltrent dans le sol, on fait cette petite tranchée de 30 cm de profondeur. Et ça, on le remplit de bois broyé. Voilà. Donc comme ça, on reste dans la surface, parce que c'est dans la surface du sol qu'on a le plus de vie bactérienne. Et ça, c'est une généralité de l'assainissement. C'est-à-dire que sur cette technique-là, comme sur les stations, on va dire, plus classiques qu'on retrouve chez les particuliers, filtres à sable ou microstations, ou comme dans les énormes stations d'assainissement qu'on va retrouver dans des collectivités qui peuvent s'appeler des bois activés, ou qu'on a dans les filtres plantés, c'est toujours, toujours, toujours des bactéries qui sont pures.
L'air, c'est la vie.
Et l'air, c'est la vie. Et donc, les bactéries qui vivent en présence d'oxygène, qui sont en surface dans le sol, c'est cela le plus performance et le plus épuratrice. Donc, on reste en surface et on envoie l'eau dans cette tranchée, de manière à ce que ces bactéries puissent épurer nos eaux. Et comme on a amoindri la charge de pollution à l'entrée de notre système d'assainissement, on se permet, à travers un système très simplifié, peu onéreux, donc le plus écologique qu'avec des énergies renouvelables et qui s'adresse à toutes les bourses, d'avoir un système performant dans son jardin. Donc là, ça peut permettre aussi de valoriser, et c'est ça l'objectif à la fin, de valoriser nos eaux ménagères, de manière à ce qu'à côté de la tranchée, vous plantez par exemple des pêchers ou d'autres arbres fruitiers de manière à ce qu'ils reçoivent un petit peu d'eau et qu'on ait une production. Donc c'est ça la valorisation.
Ah, c'est génial. Donc en fait, c'est plus un déchet, ça devient une ressource.
C'est l'objectif exact de l'assainissement aujourd'hui, que ce soit à travers nos toilettes, quand on travaille sur des toilettes sèches, ou sur cet exemple-là, à travers nos eaux ménagères, c'est que ce ne soit plus considéré comme un déchet, mais c'est une ressource, parce que ça l'est réellement, et parce que ça l'a toujours été dans l'histoire de l'homme. Ça fait combien, si on le prend à l'échelle de l'homme, ça fait très peu d'années que l'on a considéré ces matières comme des déchets, mais avant, ça a toujours été l'amendement, le fertilisant de nos sols. Donc, dans le monde agricole, on sait bien que pour amender les sols, si on a un système qu'on appelle de polyculture élevage, on va valoriser les fumiers. Et c'est ça qui va faire l'amendement de nos sols. Donc oui, on sait exactement, et c'est ce qu'il faut refaire, parce que de toute manière, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, je pense, aujourd'hui, pour diminuer notre charge de production et notre impact sur la qualité des eaux, notamment, tout en valorisant nos sols.
Toi, on t'avait vu donc, il y a quelques années, vous étiez beaucoup moins nombreux, il me semble, sur l'équipe.
Alors là, l'éco-centre Pierre-et-Terre existe depuis 1997, officiellement, dans sa forme actuelle, donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Voilà. Donc l'éco-centre a évolué petit à petit, et l'équipe s'est constituée au fur et à mesure, elle évolue progressivement, très tranquillement, on ne se bouscule pas, même si les demandes ici se bousculent et qu'on est très sollicité. Mais nous, l'équipe évolue doucement, puisque toutes les dernières années, là, on était à 4 salariés. Et c'est qu'au cours des deux dernières années, là, et maintenant, là, qu'on est passé à 6, parce qu'il y a eu des demandes particulières avec un financement. Parce que comme on a beaucoup de demandes, si l'équipe était plus importante, et bien sûr, on pourrait répondre encore à plus de demandes.
Mais de demandes de particuliers.
De demandes de particuliers et de collectivités et de professionnels, de tous les côtés. Voilà.
Mais alors, qu'est-ce qui vous finance, justement ?
Alors, voilà, c'est ça le truc. C'est que pour créer des nouveaux postes, il faut avoir un financement, vu qu'on est sur du financement, dans certains cas, participatif. Ce qu'on dit, c'est qu'on demande une participation aux particuliers qui viennent ici, mais au bout d'un certain stade, c'est-à-dire quand on se dépasse chez eux. Donc ça, c'est une partie des financements, qui est la quasi-majorité. Parce que c'est la même chose vis-à-vis des collectivités.
C'est perdu au milieu de la campagne, vous arrivez à avoir un équilibre économique avec des gens qui viennent acheter vos prestations.
Alors,
c'est bien, on pourrait se dire que la France entière pourrait se couvrir d'éco-centres.
Ah ben, nous, notre souhait, c'est qu'il pourrait y avoir facilement un éco-centre par département, voire par canton. Hein. Aujourd'hui, quand on voit le travail qu'il y a à faire, notre souhait, c'est ça, c'est qu'ils se construisent des éco-centres partout autour de nous. Et on voit bien que...
Parce que pour l'instant, il y en a quoi, une dizaine en France ?
Il y en a très peu en France. Bon, mais après, il y a d'autres associations qui ne portent pas le terme d'éco-centre, mais qui ont des actions similaires à la nôtre quand même. Donc, il ne faut pas le mettre que dans le pot éco-centre. Quoi.
Combien, depuis que vous avez été créé, je ne sais pas si on peut vraiment le calculer, vous avez accompagné de chantiers de construction et de rénovation, par exemple ?
L'année dernière, on a accueilli, on va dire, vu à peu près 10 440 personnes, quelque chose, voilà, c'est à peu près les chiffres de l'année 2017.
Ah oui, c'est énorme, c'est, vous avez vu tout. Alors, le
c'est
canton.
Pas l'accompagnement, hein. C'est les nombres de, c'est pas que sur l'accompagnement, parce que c'est organisé en trois pôles, hein. Donc information, sensibilisation, animation, formation et accompagnement. Mais ça, c'est sur l'ensemble. Après, si on vient sur la partie vraiment accompagnement, hein, en fonction des années, on va dire c'est entre 150 et 180 familles, hein, qu'on accompagne. Donc là, quand je parle d'accompagnement, c'est-à-dire on est allé, y a une action, y a une rencontre avec différents rendez-vous précis de manière à avoir une concrétisation chez eux dans leurs actes au quotidien. C'est-à-dire il y a des actes d'éco-citoyenneté qui sont mis en place, il y a des modifications dans l'habitat, il y a des modifications dans la consommation, c'est-à-dire c'est à partir du moment où il y a un acte concret qui a été passé. Donc voilà, donc l'année dernière, c'était à peu près entre 150 et 180 familles, hein, comme j'ai dit, mais ça, c'est en fonction des années.
Merci Christophe.
De rien, merci beaucoup.
Alors maintenant, on va aller embêter, justement, il y a un rendez-vous dans un petit bureau. Alors justement, on a parlé d'accueil des publics, et donc aujourd'hui, on est arrivé, il y a des gens qui n'étaient pas du tout prévenus, qui sont là. Alors, tu t'appelles ?
Bonjour, je m'appelle Émilie.
Alors, toi, tu es venue pour quoi ici ?
Alors, je viens de Lourdes et en fait, je suis venue pour avoir des conseils pour de la rénovation, réhabilitation.
D'accord. Tu viens d'acheter une vieille grange ou ?
C'est en cours.
D'accord.
C'est en cours, ouais. Donc, pour pas faire n'importe quoi, je viens prendre des conseils.
Ah oui, parce que ça, c'est un vieux bâtiment, donc on n'applique pas forcément au vieux bâtiment les mêmes choses que sur une maison en parpaing, c'est ça ?
Je pense, ouais.
Ouais. Et Lourdes était venu de loin, quand même.
Oui, on est venu de loin.
Ça fait combien de kilomètres ?
70 kilomètres, à peu près.
Ouais. Mais il y avait qu'ici que vous pouviez trouver les infos qui vous semblaient les plus en accord avec vous, avec des valeurs que vous vouliez.
C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, on cherchait quelque chose qui soit dans l'humain, dans l'écologique et dans l'échange. Et là, pour l'instant, c'est ce qu'on a.
Alors, qui est-ce que tu as rencontré ici ? Comment tu t'appelles ?
Alors moi, je suis Anaïs. Je suis technicienne habitat et assainissement à l'association. Et je suis architecte de formation.
D'accord. Et donc, tu accompagnes les gens sur de la réno, sur de la construction, sur tous les projets d'habitat ?
Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas que les particuliers, parce qu'on accompagne aussi les collectivités. Donc, effectivement, que ce soit des projets de rénovation sur du bâti ancien ou du bâti plus récent, ou des projets de construction neuve, c'est un peu plus rare, mais on accompagne aussi ces projets-là.
Les gens arrivent avec quelles interrogations, en général, quand ils viennent te voir ?
Ouf, bah, c'est assez variable, parce qu'on peut renseigner autant sur l'habitat que sur l'assainissement. Donc, selon leurs préoccupations, ils peuvent venir pour l'une ou l'autre des thématiques. En gros, ils se posent des questions sur comment faire bien, entre guillemets, comment utiliser des bonnes techniques et les bons matériaux sur du bâti ancien, essentiellement. Parce qu'on entend... tout et son contraire, donc c'est des gens qui sont quand même un peu sensibilisés, mais qui veulent se faire leur propre opinion avant de s'adresser aux artisans.
Et alors, c'est quoi les erreurs qu'il ne faut pas qu'on mette sur du bâtiment ancien? Bon, les premiers trucs, c'est des grandes ouvertures au sud pour avoir des calories en hiver, les apports solaires, c'est ça. De l'ombre devant ces vitrages en été, donc soit par une petite tonnelle avec une glycine ou quelque chose comme ça, ou alors carrément un arbre qu'on va étêter, un tilleul ou quelque chose comme ça qui va perdre ses feuilles en hiver, c'est ça?
Alors ça, c'est les choses à faire, du coup. Et les choses à ne pas faire, mais qui malheureusement ont été faites dans beaucoup de bâtiments, c'est de venir en fait étanchéifier les sols ou les murs. C'est-à-dire que vu que ces bâtiments-là, ce sont des matériaux naturels perspirants qui vont laisser émigrer la vapeur d'eau, la pierre, la terre et tout ça, ben, si on est venu mettre des enduits étanches en ciment, des dalles en ciment, etc., au fur et à mesure, en fait, on bloque l'humidité qui va remonter du sol. Et après, il va y avoir des problèmes vraiment d'humidité, de salpêtre, etc.
Et de solidité des murs, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à une armature qui va très bien avec du béton partout et un mur qui se délite entre les deux, quoi.
Exactement, parce que le fait d'emprisonner l'humidité, ben, on comprend assez facilement qu'un mur en terre, s'il est trop gorgé d'eau, ben, la terre va redevenir de la boue et donc forcément va s'effriter et va carrément se dilater dans le temps. Donc ça, c'est le pire qui peut arriver, mais on l'a déjà vu, donc ça arrive.
Donc la solution, c'est d'utiliser des matériaux qui vont avec ça, c'est-à-dire des matériaux naturels qui isolent, puisque c'est quand même un but, l'isolation et les économies d'énergie, mais tout en laissant respirer son mur. Et là, il n'y a que les matériaux naturel qui est biosourcé qui fonctionne.
Exactement. Sur le bâti ancien, en tout cas, c'est sûr. Alors, des fois, c'est un peu moins vrai sur du bâti plus contemporain, mais nous, on a quand même la ligne rouge de préconiser des matériaux naturels, sains et écologiques.
Donc, en gros, c'est ce qui a été construit avant 1914 et ce qui a été construit après 1914 ?
On dit plutôt 1938 que 1914, voilà. Mais effectivement, c'est ça. Après, on trouve d'autres bâtis anciens après-guerre, on va dire, mais c'est essentiellement avant 1938. Et effectivement, trouver des matériaux qui vont être encore respirants, mais qui vont apporter une isolation thermique, parce que des gros murs de 50 ou 60 cm, même en terre ou en pierre, c'est pas des isolants. Voilà. Donc effectivement, il faut améliorer un peu pour le confort d'aujourd'hui.
Bon. Et le mieux, c'est de venir vous voir ou d'aller voir d'autres éco-centres, des architectes qui s'y connaissent un peu, parce que au-delà de l'écologie, il en va de la survie du bâtiment quand il est ancien.
Exactement. Alors, dans chaque département, il y a ce qu'on appelle les CAUE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui peuvent apporter des conseils, mais qui ne sont pas sur la ligne, le fil rouge de l'éco-construction. Eux, ils vont préconiser toutes sortes de techniques. D'autres éco-centres, oui, mais on n'a pas tous non plus les mêmes spécificités, les mêmes compétences. Voilà, il y en a qui vont être plus sur la permaculture, donc plutôt le jardin. Voilà, donc ça peut différer. Mais effectivement, prendre rendez-vous avec nous si vous êtes dans le secteur, même passer un coup de fil, envoyer un mail, on essaye vraiment d'être à l'écoute.
Et du neuf, alors vous en faites ?
Alors oui, on en fait. Alors un peu moins souvent, mais on en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent avec l'envie de construire un projet neuf et qui viennent soit pour avoir la phase pareil conseil vraiment sur la répartition des pièces, les dimensions même des pièces et les techniques à utiliser. Et après, il y en a d'autres où on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va les aider aussi dans la conception et le dessin carrément du projet. Ouais.
Merci beaucoup.
De rien.
Bon, mais donc Véronique, on va donner les dernières infos pour que les gens puissent découvrir ce que vous faites.
Il y a le site internet et le téléphone. Donc le site internet, c'est www.pierreetter.org et le numéro de téléphone 05 62 69 89 28.
Alors sur le site internet, on trouve déjà une première phase d'information.
Ah oui, il y a toutes nos publications, pas mal de ressources, nos activités.
Merci beaucoup.
À bientôt. We'll be right back.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet. Right.